Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur la Radio Mondiale où nous revenons avec la Ligue des Champions et l'heure de vérité des quarts de finale. Le PSG obligé à l'exploit ce soir, obligé d'éliminer le Barça en terre catalane. L'entraîneur espagnol des Parisiens, Luis Enrique, veut y croire. Comment a-t-il préparé son groupe, notamment sur le plan psychologique, le talon d'Achille du PSG? Les Blaugrana de Xavi se montrent, eux, sereins à domicile. Quel serait donc leur point faible? Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Adi,
je vous demande pas comment ça va, parce que quand vous me dites ça va, en général ça se passe mal pour votre PSG. Donc ça va pas aujourd'hui?
Non, ça va pas du tout. j'étais un peu énervé par les souvenirs du match aller, donc c'est ça qui fait que
vous êtes confiant ou moins. Pas
J'ai envie de dire que tout est possible, parce que ce que je disais tout à l'heure.
Oui, ça, on dit toujours que tout est possible.
Non, mais avec le Paris Saint-Germain, c'est vraiment là, tout est possible. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre une rouste ce soir, comme ils peuvent la mettre, comme ils peuvent perdre au dernier moment. Tous les scénarios sont possibles ce soir, donc je garde un petit peu d'espoir, mais j'ai été très déçu du match aller.
On va en parler, on en parlera aussi avec Cédric De Oliveira, qui est notre envoyé spécial en terre catalane, et puis avec Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Annie, bonjour à tous. Je retire ma casquette parce que je me suis dit que c'était inconvenant d'être dans un tel studio.
Vous n'êtes pas filmé.
Connecté à des millions de personnes. Je pense que je leur dois un peu de respect. Donc
et vous croyez quoi? Vous croyez rien?
Moi, je suis pas dans les. Je suis factuel. J'ai peu d'espoir pour le Paris Saint-Germain, mais on verra.
Vous aussi, vous pensez que tout est possible, vous me l'avez dit tout à l'heure. En tout cas, notez, chers auditeurs, que la rencontre est retransmise en direct ce soir sur RFI. Et nous serons là ensuite pour le débrief. Le Borussia Dortmund, au pied du mur, de son mur jaune, est capable de pousser ses joueurs vers une qualification. Mais les Colchoneros arrivent de Madrid avec un but d'avance. Pourraient-ils être éliminés, les joueurs de l'Atlético, par le club allemand d'un Jadon Sancho retrouvé? Nous en parlerons. Coup d'envoi des JO ce matin en Grèce, où la flamme olympique a débuté son long parcours vers Paris. Le foot est une discipline à part entière d'une Olympiade. Et oui, nous en parlerons. Et les Bleus seront-ils avec ou sans Kylian Mbappé? L'espoir existe encore, apparemment, en tout cas pour certains. Nous avons préparé cette émission ensemble avec David Finzel, Pierre Guérin et Mathieu De Galdre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Confrontation en quart de finale de la Ligue des Champions face au Barça, défaite 3-2 pour le PSG de Kylian Mbappé.
Le match tant attendu, ce match retour entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
On y est, la dernière ligne droite, la porte ouverte ou la porte au nez. Tu passes ou tu casses, t'avances ou tu tombes.
Est-ce que le Paris Saint-Germain peut éliminer le FC Barcelone?
C'est des espoirs. C'est juste un rêve.
C'est que quoi qu'il arrive, ça va être compliqué.
Ça va pas être simple, hein. Écoutez, certains supporters et certains sont glanés de part et d'autre. Alors le PSG, la seule équipe, rappelons-le quand même, je suis désolée Eric, c'est un fait, comme dit Nabil, attachons-nous au fait, eh bien c'est la seule équipe à avoir perdu son match aller à domicile quand même, de tous ces quarts de finale et de ces 8 équipes qui étaient en piste. Mais évidemment, le PSG est aussi prêt à l'exploit. Finalement, les Parisiens n'ont qu'un seul but de retard et la mission n'est donc a priori pas impossible. Cette revanche de la revanche, hein, puisque c'est devenu un classico européen, ce match entre les Parisiens et les Barcelonais, il se déroulera sur un terrain neutre, peut-être peut-on dire, car la rencontre n'a pas lieu au fameux Camp Nou, le stade historique du Barça, qui n'est qu'un amas de gravats pour se refaire une beauté pour la saison prochaine. Le FC Barcelone a élu domicile cette saison dans un autre stade historique de la ville. Et c'est Cédric De Oliveira qui l'a vu pour nous depuis hier. Bonjour Cédric.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors Cédric, cette enceinte se trouve sur la colline de Montjuïc. Elle fut le stade des JO de Séville en 1992, mais on peut dire que c'est un stade historique quand même de Catalogne.
Alors les JO de Barcelone en 92.
Ah pardon, oui.
C'est l'exposition universelle
effectivement,
de
vous avez de la culture. Vous avez tout dit, effectivement. il est sur la colline de Montjuïc, qui est située au sud-ouest de la ville. Alors, ben oui, c'est pas le Camp Nou, c'est un peu moins impressionnant. Effectivement, c'est pas le stade le plus moderne d'Europe. Voilà, il y a même une petite horloge cassée. Je sais pas si vous avez l'image, oui. En tout cas, si vous avez déjà vu. La capacité est un peu moins importante. Alors, j'ai un peu tout lu. J'ai pas vraiment, on va dire entre 50 000 et 60 000 personnes.
Oui, 50 000 aussi, j'ai vu.
Pour ce match, voilà, c'est pas mal, effectivement. Déjà, c'est plus qu'au Parc des Princes. mais c'est vrai que les supporters barcelonais sont pas très, très fans, voilà, de ce stade. Ils attendent avec impatience que le Camp Nou soit rouvert. On rappelle que c'était 100 000 personnes, notamment lors de la remontada de 2017. Alors après, on disait que c'est quand même, ça se passe très bien quand même pour le Barça dans ce stade. Mmh. Depuis le début de la saison, ils ont gagné tous leurs matchs de Ligue des Champions. Donc c'est quand même une statistique qui peut permettre d'aborder ce match avec de la sérénité pour les Catalans. Et alors hier en conférence de presse, quand même, il y a Xavi et Pedri qui ont demandé le soutien du public parce que voilà, depuis le début de la saison, ils sentent un peu moins d'entrain que lors des saisons d'avant. Donc à voir, voilà, il faut que tout le club soit uni. Voilà, c'était le message de Xavi hier. Il faut que tout le monde mette un petit peu sa pierre à l'édifice pour que le Barça aille en demi-finale.
Oui, alors c'est sûr que cette enceinte, vu qu'elle est un peu loin du stade, de l'autre stade et de l'autre lieu, elle est moins prisée. Il n'y a que 35 000 spectateurs en moyenne sur tous les matchs qui se sont déroulés depuis le début de la saison. Et ça a été effectivement, comme vous disiez, Cédric, un stade qui a plutôt réussi au Barcelonais. 21 rencontres, toutes compétitions confondues, et 17 victoires pour seulement 3 défaites. A contrario, le PSG, lui, n'a jamais réussi à se qualifier en perdant le match aller, en tout cas les 4 fois précédentes. Eric, vous qui êtes un ancien joueur, et là je m'adresse à vous sur l'expérience, est-ce que là les Barcelonais ne sont pas dans leur stade habituel, hein, ce fameux Camp Nou, et ils ne sont pas non plus les Parisiens dans cette fameuse pelouse où il y a quelques fantômes qui rôdent depuis 2017. Est-ce que ça peut changer un match ou pas vraiment?
Je sais pas si c'est un facteur qui est vraiment aussi important que ça. C'est quand même important parce que le Camp Nou représente quelque chose. Ça, oui. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, le Camp Nou, c'est
le cimetière du PSG.
C'est le Camp Nou. Donc, il y a eu beaucoup aussi. Plus d'échecs que de victoires du côté parisien. Donc, effectivement, ça peut être différent de ce côté-là. Après, c'est pas ça qui va faire que le PSG va gagner le match ou va être capable de renverser un peu la vapeur. Donc il faut aussi déjà arriver avec un état d'esprit un peu différent et pas les fantômes qui traînent sur le terrain, c'est sûr.
C'est plutôt un fait qu'un fait qui influe.
Je sais pas, Eric, il a été joueur. Après, on a des repères peut-être. Si toi, qui as longtemps joué au Paris Saint-Germain, si on t'avait déplacé, je sais pas, au stade de la Porte de Gentilly à Charlie-Ty, peut-être que tu ne l'aurais pas vécu de la même manière.
Les repères, c'est sûr que ce n'est pas pareil. Je pense que ce n'est pas pareil pour eux, ce n'est pas pareil, parce que le terrain est quand même beaucoup plus grand au Camp Nou. Ouais. Il est quand même et gigantesque.
Moi, je pense que ce n'est pas anodin.
Les supporters ne l'aiment pas parce qu'il y a une piste d'athlétisme. C'est souvent ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il n'est pas du coup comme on dit à l'anglaise.
J'ai quand même une question. Ce n'était pas l'ancien stade de l'Espagnol aussi, là ? C'est pour ça que je me dis que...
Oui, Cédric, c'est ça. Cédric ?
Je vous ai plus entendu, il y a une petite coupure, pardon. Dites-moi.
Mais Eric le disait, et c'est vrai, c'est l'ancien stade de l'Espagnol de Barcelone aussi, ce stade de Montjuïc. Non, on a perdu.
Oui, c'est ça, ils ont joué pendant plusieurs saisons.
C'est ça, je crois de 2007 à 2009.
J'ai eu le sens qu'ils ont fait pas mal de...
96 ou 97.
Ils ont bâti un autre stade d'ailleurs à la périphérie de Barcelone, l'Espagnol Barcelone.
Mais non. C'est un stade qui est comme en Corolle, qui est un peu à l'ancienne, un ovale, ça rappelle les stades sud-américains.
Quand il y a une piste autour d'un terrain, c'est jamais...
Les spectateurs sont...
On perd en proximité, donc du coup, peut-être en ambiance. Et peut-être que de ce côté-là, ça peut aussi aider les Parisiens ou subir peut-être un peu moins de pression, même si je ne suis pas sûr que les supporters de Barcelone soient très très chauds par rapport
au départ. De toute façon, on les imagine. C'est le stade qui est impressionnant.
Ouais, c'est ça, je pense.
C'est pas les supporters de Barcelone
en
soi.
C'est pas une ferveur
incroyable.
C'est ça, oui.
Et puis, c'est un public un peu Disneyland, comme on dit, parce que c'est aussi un public de touristes, le Camp Nou, si je puis me permettre. Il y a des gens qui viennent des quatre coins de la planète, surtout pendant la séquence avec Messi, Iniesta et Xavi. On voyait des gens qui venaient du Japon, des pays arabes.
Des asiatiques, ouais, on
voilà,
en
c'est
vu.
Pas la, c'est, excusez-moi, Annie, c'est la référence. Aussi, et je pense que aller rendre Valente apprécié, c'est pas la Bombonera, quoi.
Oui, non, bah, oui, c'est sûr. Ah, bah, non, mais c'est sûr.
La Bombonera, il n'y a pas de piste.
Voilà. Non, je veux dire en termes de ferveur, quoi.
Non, mais je plaisante. Alors, en tout cas, il y a aussi parfois des facteurs X ou Y, Eric. Oui. Et notamment, ben, les supporters, ils peuvent être un peu mauvais joueurs. En tout cas, ils peuvent titiller les adversaires en les empêchant, par exemple, de dormir.
Vous allez la fermer, ouais. On aimerait bien dormir.
On a grossi un peu le trait, hein, parce que bon, les supporters coulisses ne parlent pas aussi bien le français, mais il y a 3000 Français d'ailleurs qui seront sur place là-bas. Est-ce que vraiment ils ont réussi à empêcher les joueurs du PSG de dormir ?
Non, je pense pas vraiment. Après, ça fait partie du folklore. Hein. On a vu aussi des supporters parisiens. J'ai vécu ça, ouais. Mais ça n'avait rien à voir avec la Ligue des Champions. C'était en Corse, où là, on vous appelait dans la chambre pour vous réveiller en plein milieu de la sieste. Et aussi, pareil, où on klaxonnait sur le... C'était, voilà, ça fait partie du truc. C'est...
En Afrique, ça arrive régulièrement entre les sélections nationales. Mm-hmm. Parfois, dans l'hôtel des joueurs, on organise des mariages. Ça, c'est connu en Égypte, par exemple. Oui. Une anecdote comme ça d'une sélection, je ne sais plus quelle... La Côte d'Ivoire, je ne sais plus quelle équipe était là. Ils étaient au quatrième. Au deuxième, il y avait un mariage. Pareil, quand le Burkina Faso va jouer un match de barrage déterminant face à l'Algérie à Blida, bah dehors, ils organisent un spectacle pyrotechnique. Donc,
bon. Un spectacle.
Ouais, écoute.
Cédric de Oliveira, vous avez bien dormi quand même cette nuit?
Oui, je suis de retour, effectivement. Moi, j'ai dormi correctement, effectivement, pas de pétard.
On vous avait pas repéré.
C'est pas dans le hôtel.
Ce soir, il n'y aura pas trop d'impact. Je vais pouvoir commenter tranquillement.
Bon, alors, tout va bien. En tout cas, ce PSG a donc, s'il a fait une bonne nuit, a-t-il préparé ce match retour sans jouer, lui, durant le week-end? Parce que, rappelons-le quand même, le Barça a joué. Certes avec une équipe ultra remaniée, mais ils sont allés gagner à Cadiz sur le score de 1-0 avec un but du Portugais João Félix. Luis Enrique, en tout cas, et c'était à votre micro, Cédric de Oliveira, a raconté l'impact de la défaite sur le groupe.
La défaite a été dure à encaisser. Elle a eu un impact, pas uniquement sur les joueurs, mais aussi sur le staff et sur tous les gens du club. Mais c'est aussi ça la vie d'un sportif de haut niveau. On tombe, on se relève et ainsi de suite. On doit être habitué à cela. Il faut l'accepter. On a la chance de rejouer le même adversaire 6 jours après. Un joueur a normalement cette capacité de rebondir rapidement. On a eu du temps pour préparer au mieux notre meilleure stratégie à tous les niveaux. Nous sommes prêts.
Ils sont donc prêts, préparés. C'est pas facile à digérer quand même une défaite à domicile, surtout que la semaine dernière, on se souvenait très bien, Eric, d'avoir vu cette une de l'équipe, par exemple, en disant « il faut sortir le grand jeu ». Ouais. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Et tout le monde a été déçu. Ils ont déçu leur public, ils ont déçu les espoirs. Il faut se relever de ça après. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là?
Se relever, ils ont l'habitude, j'ai envie de dire. Ça fait partie du... Voilà, la remise en question, c'est tous les 3 jours, encore plus quand on est une équipe comme le Paris Saint-Germain. Tu te remets en question, même si tu as l'habitude de gagner. Et là, ils étaient quand même sur une série de 27 matchs. Donc, il y avait peut-être une certaine habitude. Ça a peut-être fait aussi... De ce côté-là, c'est là où ça a marqué les esprits, c'est-à-dire qu'il y a un électrochoc. Ils se sont dit, on va continuer la série, ça se passera mieux. Ce que tout le monde attendait, finalement, dans le scénario. On pensait que Paris était capable de faire bien mieux que ce qu'ils ont fait contre le Barça. Donc oui, je pense que ça les a marqués. Oui, je pense qu'ils se sont remis en question. Maintenant,
qu'est-ce qu'on dit aux joueurs dans ce cas-là, vous qui avez ce rôle de coach?
Il faut d'abord digérer. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer que ils ont raté le match, ils ont vraiment raté le rendez-vous. Ça, il faut leur dire. Il faut leur dire, même s'ils le savent, il faut leur dire. Et voilà. Après acquiescer et après passer à autre chose et se remettre en question et se remettre au travail. Parce que c'est dès le lendemain. Parce qu'on laisse le temps de la digestion, on va dire, sur le soir. Mais après, derrière, dès le lendemain, il faut se remettre au travail parce que. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à travailler pour améliorer la performance du prochain match. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant.
Cédric, est-ce qu'ils vous ont paru plus serein, ayant digéré, disons, cette déception et ces vents contraires du match aller?
Bah, il y a un truc très particulier quand même avec ce PSG, c'est qu'hier donc la séance d'entraînement s'est déroulée dans la sérénité, on va dire l'allégresse la plus totale. On avait l'impression qu'en fait c'était eux qui avaient gagné le match aller.
Ouais, c'était un message, j'imagine.
Ce qui est surprenant, c'est quand même la confiance qui règne. Je le disais déjà la semaine dernière après le match aller, mais autour des supporters qui sont persuadés du fameux tout est possible. Mais bon, c'est un discours que qu'utilise Luis Enrique, hein, qu'il connaît bien, puisqu'on rappelle que c'était lui hein, qui était de l'autre côté lors de la remontada en 2017. Donc à l'époque, il y avait un autre score à remonter, même si le match retour était à Barcelone. Donc voilà, il y a ce discours-là, chez Hakimi aussi hier, il y a ce côté tout est possible, il y a une sorte de confiance. Bah oui, on a Kylian Mbappé, on a des joueurs qui peuvent marquer, on va marquer, donc après on va mettre le doute dans la tête des Barcelonais. Voilà, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est on lance la pièce et puis on verra bien. Si elle peut tourner du bon côté, elle peut retomber du bon côté en tout cas, et ça peut passer pour le PSG.
Nabil, c'est aussi une méthode Coué un peu, c'est-à-dire ouais, c'est on se présente...
Comme vous m'avez dit, il y a de la com, quoi, il y a une forme de com. Moi, ça me fait rire un peu le truc, ouais, on est déterminé, machin, mais ça veut dire quoi? Avant le premier match, le match aller, ils n'étaient pas déterminés? Non, mais ça m'étonne, ouais, quoi. Alors peut-être qu'ils ont été pris un peu par un discours... un peu enthousiaste au moment du tirage, parce que là, c'était la voie réelle vers la finale. Maintenant, on est passé d'un tirage facile à, si on bat le FC Barcelone chez lui, à un exploit. Donc peut-être que la vérité est entre les deux. Moi, ce que j'attends du côté du Paris Saint-Germain, c'est pas des discours de circonstances, c'est surtout des certitudes dans le jeu, un supplément d'âme, et puis des joueurs stars et des joueurs cadres au rendez-vous, tout simplement. Évidemment que potentiellement, ils peuvent le faire. Mais s'ils sont dans le même état d'esprit qu'avant le match aller, on nous explique qu'en face, c'est une ambulance, que c'est plus le grand club que c'était, bah, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Et en plus, quand vous avez des discours aussi arrogants, après, bon, c'est sa force, hein, il fait comme il veut, que Luis Enrique, qui vous explique qu'il a laissé une plus grande trace dans l'histoire du football que Xavi, qui est un joueur qui aurait pu gagner un ballon d'or, parce que Xavi, il ne gagne pas de ballon d'or parce qu'il y a Messi. Hein. Luis Enrique, Messi, il n'est pas...
Ou Iniesta.
Mm. Il n'était pas... Donc moi, j'ai juste besoin de voir un Paris Saint-Germain enfin sortir un match de très haut niveau en Ligue des Champions. À l'extérieur, face à Milan, ils se sont fait jongler. À Newcastle,
depuis longtemps, ouais.
Ils se sont fait jongler. À Dortmund, ils se sont fait jongler. Donc ce soir, soit ils sortent le match de l'année, soit c'est dehors.
Mmh. Ouais. Hein? Et justement, Cédric de Oliveira, quelle tactique attend-on de Luis Enrique? Est-ce qu'il va persévérer dans son jeu à la barcelonaise, à Barcelone, avec des Parisiens? Est-ce qu'il va aussi sortir un peu de son chapeau une demi-surprise, comme il en avait réservé sur la compo, comme on dit, du match aller?
Bah, au-delà de la tactique, ouais, c'est plutôt les choix des joueurs hein, qui avaient été un petit peu particuliers. C'est sa marque de fabrique à Luis Enrique, notamment en Ligue des Champions. Là, il y a au moins une donnée pour lui, c'est que Achraf Hakimi revient, que c'est le titulaire indiscutable sur le côté droit et que ça devrait, je dis bien devrait, permettre à Marquinhos de retrouver l'axe avec Lucas Hernandez et à gauche Nuno Mendes. C'est la défense titulaire sur le papier. Oui. Après,
c'est déjà plus rassurant.
Voilà, il a déjà effectivement, il avait déjà voulu surprendre. Et puis, après, c'est peut-être retrouver Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, peut-être titulariser directement Barcola. C'est ce qu'on a vu sur le match aller. C'était les joueurs en forme et les joueurs à leur poste. Mmh. Après, voilà, Luis Enrique, il aime bien surprendre son monde et montrer qu'il est le plus intelligent. Parfois, ça tourne, mais ça n'a pas marché au match aller. Est-ce que ça marchera au retour? On verra ça un petit peu plus tard quand on aura la composition d'équipe.
Éric Rabé, vous appréciez plutôt le travail de cet entraîneur, mais est-ce qu'il n'essaye pas de forcer un peu les choses, c'est-à-dire d'imposer un style avec des joueurs qui correspondent peut-être pas ou pas encore?
Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. J'avoue que je peux m'appuyer là-dessus sur vraiment l'exemple de Newcastle, où là, il a demandé des choses au Paris Saint-Germain, où il avait certainement pas les joueurs pour faire ce qu'il voulait. Parce que moi, je reste persuadé que c'est pour ça qu'il n'a pas changé à la mi-temps. Parce qu'à la mi-temps, il était persuadé que sa tactique était la bonne. Elle était bonne, mais pas avec les bons joueurs. Et je pense que là,
Match aller, il change quand même 5 joueurs sur la deuxième mi-temps.
Ouais, mais ouais. Heureusement qu'il change à la mi-temps parce que ça
mais
change.
C'est énorme
mais,
quand même.
Non, mais ce qui, ce qui, ça a fonctionné. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Mais la première mi-temps,
souvent quand il change, ça fonctionne aussi. C'est pour ça que là, bon, là, je pense qu'il devrait revenir quand même à une base parce que il y a quand même une base assez forte par rapport à ce qu'on va, on a pu voir à l'aller.
Bah, c'est on que va là, voir à 20h, on saura.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que la défense, je vois pas comment on pourrait mettre quelqu'un d'autre en défense là. Là, ce serait vraiment prendre.
Ouais, mais méfie-toi avec lui.
Je sais, tu peux, mais je pense qu'il y a, je vois pas comment.
Il peut très bien mettre Danilo tout
il
à l'heure.
Il peut mettre Danilo, mais.
Mais au demeurant, un bon joueur.
Mais
enfin,
vraiment,
bon,
oui, oui, non, débat, mais quoi. Vraiment, c'est un guerrier. Ouais.
Mais Annie, ce soir, il faut que. Moi, c'est ce qui m'intéresse, mais si le Paris Saint-Germain veut gagner, ce soir, il faut laisser le ballon au FC Barcelone. Parce que
je suis d'accord.
Vous pouvez pas jouer.
Je suis d'accord,
si vous gagnez sur
naturellement, ils vont le faire, en fait.
Et donc, on verra.
Et puis, ils ont un avantage d'un but, en plus. Les autres, ils vont monopoliser la balle juste
donc,
pour.
La saison prochaine, parce que votre question est pertinente, parce que là, la moitié des joueurs. Bon, il est arrivé, c'est une équipe en construction. Moi, j'attends la deuxième saison, le deuxième album.
Ah bah, ils se
bon,
préparent déjà pour l'année prochaine.
Voilà, mais on verra, ils peuvent continuer en Ligue des Champions et faire quand même encore un très bon
parcours.
Oui,
bien sûr.
Mais ce qui sera intéressant, c'est surtout lui avec ses hommes. Parce que pour l'instant, c'est pas ses hommes, si je puis me permettre.
Parce il a gardé ce qu'il y avait déjà.
Colomouani, il n'en voulait pas. Ramos, il n'en voulait pas. Dembélé, oui, ça va avec son style de jeu. Ougarté, c'est pas un profil de joueur. Donc, voilà.
En tout cas, évidemment, comme on dit, c'est mieux quand les grands joueurs du début jusqu'à l'autre bout sont bons. On pense à Donnarumma dans les buts, à Kylian Mbappé bien sûr en attaque. Donnarumma,
c'est la mauvaise nouvelle en fait.
Vous avez des doutes, Eric, sur Donnarumma?
Bah, ouais, c'est la mauvaise nouvelle.
J'ai des doutes. Alors, je suis très content de son début de saison et ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Sauf que là, je ne pensais vraiment pas qu'il pouvait s'écrouler comme ça sur ce match-là de Ligue des Champions.
On lui reproche de ne pas être là sur les moments essentiels.
Oui, parce qu'on se rappelle le
Même
Real.
Même avec l'Italie.
On se rappelle le Real. On se rappelle, moi, je suis l'arrivée de Donnarumma, on en parlait tout à l'heure, mais l'arrivée de Donnarumma, elle arrive au pire moment parce que c'est au moment où le Paris Saint-Germain a trouvé un gardien, enfin, depuis très longtemps. Voilà, et c'est une opportunité, oui, mais sauf que l'opportunité, elle s'est transformée en bazar géant, quoi.
Ceux qui te disent c'est une opportunité de marché, c'est ceux qui justifient le truc.
Mais bien sûr, parce que là, t'as un Navas qui était au top de sa forme, qui a gagné 3 Ligues des Champions et que là tu sors de tout ça pour mettre un mec qui finalement va mettre je sais pas combien de temps avant de te convaincre, c'est-à-dire cette année
qui n'est pas
et,
tout à fait fini
derrière,
on va dire, hein,
il vient de remporter l'Euro avec l'Italie, voilà, il a une certaine cote,
oui, mais il a remporté un tournoi,
c'est surtout ce qu'il fait après en Ligue des Champions qui est décevant. Et effectivement, dans les grands rendez-vous, notamment contre le Real Madrid, et en fait, je sais pas si on peut se remettre d'une erreur pareille, parce qu'évidemment, à chaque gros match, eh ben, il doit sentir la pression sur ses épaules, et ben, pour l'instant, en tout cas, il a pas sorti de gros matchs quand ça devenait difficile. Quoi.
Et Cédric, vous avez raison, on a l'impression, en plus, que la pression est terrible contre lui. C'est-à-dire que quand il fait une erreur en début de match, on l'a vu souvent, et bien après, pendant tout le match, on dirait qu'il sort un peu. Moralement, psychologiquement, de son match.
C'est surtout qu'il sort ses défenseurs. Oui. Il sort ses défenseurs aussi. Parce que là, les défenseurs, moi, je peux vous dire, en tant que défenseur, quand vous avez un gardien qui est fébrile, il n'y a rien de pire pour un défenseur. Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on donne jamais le ballon derrière? Est-ce qu'on est vigilant sur n'importe quelle frappe? Ça change complètement la façon de voir le match aussi.
Et c'est peut-être pour ça qu'ils encaissent 3 buts. En tout cas, Achraf Hakimi, et ça, vous l'avez bien entendu.
Surtout le troisième but, là.
Ouais, c'est celui-là qui est catastrophique.
Où Christensen est seul au 6 mètres, c'est incroyable. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un but pareil en Ligue des Champions dans cette dernière saison.
Sur un mec qui fait plus d'un mètre 90.
Et sa taille en plus. En tout cas, vous l'avez bien entendu, vous, sur place, Cédric, c'est Achraf Hakimi. Lui, il est donc de retour dans l'effectif parce qu'il était suspendu la dernière fois. Et il est rassurant sur l'état d'esprit de son ami Kylian. Écoutons-le.
Ils sont très très bien, ils sont très motivés, comme toute l'équipe. Je pense que c'est le moment de montrer qu'on est prêt et de changer le résultat du match d'aller.
Alors évidemment, Cédric, c'est l'homme qui peut faire changer un match. Évidemment, il s'appelle Kylian Mbappé. Il est mis en avant et c'est sûr que même si une équipe, c'est évidemment 11 personnes, on attend beaucoup de sa dynamique et du danger qu'il peut provoquer.
Évidemment. De toute façon... on va dire que c'est sans doute le meilleur joueur du monde, ou en tout cas l'un des meilleurs, selon la nationalité. On va pas rentrer dans ce débat, mais Mais c'est vrai que c'est un joueur qui il est à 39 buts cette saison, toute compétition confondue, avec le maillot du PSG. Il a marqué au match aller contre la Real Sociedad, il a marqué au match retour. Bon là, il a vraiment raté son rendez-vous face au Barça. J'ai vu passer une statistique, c'est le fait qu'il marque en match élimination directe, il marque quand même 13 fois à l'extérieur. Donc
sur 11 matchs,
de ces matchs coup près, ça fait de lui le troisième derrière Benzema et Cristiano Ronaldo qui ont fini leur carrière, en tout cas en Ligue des Champions. C'est vous dire quand même voilà, la capacité de ce joueur à évidemment faire la différence. Il avait marqué au Real, même malgré l'élimination. Il avait marqué un doublé au Bayern Munich. Enfin bref, ça reste par lui que tout peut arriver maintenant. Voilà, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu aussi discret. On ne va pas revenir sur les choix de Luis Enrique, mais peut-être que ça doit trotter dans sa tête, lui qui se dit si imperméable à tout ça. Il avait dit, je crois, en conférence de presse il y a quelques semaines, est-ce que tu as l'impression que je suis perturbé? Là, en tout cas, dans les derniers matchs, on n'a pas vu sa meilleure version. C'est le moment, c'est ce genre de match, c'est là où on doit voir en tout cas le grand joueur qu'il est.
C'est la question qu'on se pose effectivement sur l'état d'esprit, Nabil, parce que, et c'est pour ça qu'on a écouté Hakimi, parce qu'Hakimi dit je le sens très bien, très motivé, et on se pose un peu des questions autour non pas d'un match et de l'enthousiasme de Kylian Mbappé en général, mais aussi de ce qui a entouré tout ce match ces derniers temps.
Oui, oui, bah, il vit une année particulière. Il a joué,
je crois, 51 minutes en Ligue 1 depuis qu'il a dit mi-février.
Déjà, oui, effectivement, il y avait l'indécision. Et puis ensuite, quand il y a eu la décision, si je puis me permettre, et il y a eu la gestion. La gestion, c'est Luis Enrique et sa manière de mettre son meilleur joueur dans les meilleures conditions. Il a fait un choix. On verra si c'est payant à la fin. Mais moi, en fait, je voudrais quand même dire que je trouve qu'on a été très sévère. Alors, il n'a pas été bon, mais je trouve qu'on a été un peu trop sévère avec lui sur
le match. Parce qu'il fait une passe décisive un peu
en dépit de... aller. Et ce qu'on oublie, c'est que plus tu avances dans la compétition, plus les équipes sont meilleures, plus les adversaires sont meilleurs. Mais il y a un moment, Haaland, Mbappé ou d'autres, parfois il y a des gros joueurs en face. Et là, il y avait Koundé et Araújo qui ont sorti
Nabil,
aussi un gros match. T'es pas d'accord?
On va en parler de Barcelone, mais Lewandowski.
Il a été très bien pris contre Barcelone.
Lewandowski, il est aussi un très grand joueur. Et lui, il n'a pas marqué, mais on dit qu'il a fait un bon match.
Oui, mais est-ce qu'il était autant attendu que Kylian Mbappé? On n'en parlait pas, en tout cas ici.
Ici, on n'en parlait pas.
Surtout,
on parlait tous de Yamal.
Lewandowski au parc.
Ouais. Donc voilà, il y a aussi la qualité de ses adversaires. Après, sa détermination, sa motivation, l'odeur du sang, il aime ça. Mais il y a un moment, il peut aussi avoir des limites. Et si vous voulez vraiment le mettre dans de bonnes conditions, vous le mettez comme en équipe de France, sur le côté gauche, et vous jouez en contre. Voilà, c'est tout.
Alors pour le Barça, en tout cas, c'est aussi le match le plus important de la saison. Ça fait 5 saisons que cette équipe ne goûte pas aux joies de la demi-finale. Alors, ça a de quoi motiver. Alors, eux aussi, ils ont à leur passif quelques éliminations qui ont fait mal à la tête, notamment... par Paris, mais aussi par Liverpool, la Roma, on s'en souvient. Le FC Barcelone, pas si faible donc, mais sera-t-il fort ce soir? Eh bien, écoutons Pedri, qui est de retour dans l'effectif et qui, lui aussi, a des rêves.
Je joue au Barça, le club de mes rêves. On peut disputer une demi-finale, donc ce sont les deux matchs les plus importants pour moi. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Les supporters le méritent. Cela fait longtemps qu'ils attendaient de vivre des soirées comme ça à Barcelone. Ils vont nous aider à nous qualifier en demi-finale. On est très motivés. D'un point de vue personnel, j'ai connu des moments compliqués avec beaucoup de blessures, mais j'avais vraiment envie de revenir. Et ça s'est bien passé à l'aller à
Paris. La presse d'Espagne est...
répète beaucoup, Pedri.
Pardon ?
Non, je faisais une petite blague, il se répète beaucoup, Pedri, mais parce qu'on l'a entendu dire dans la traduction.
Oui. En tout cas, Pedri résume un peu ce qu'espèrent les Barcelonais. Et la presse catalane, en tout cas, elle veut bien y croire, mais elle sait que ça ne va pas être simple, Cédric.
Alors, elle sait que ça va pas être simple, mais elle est quand même globalement rassurée par rapport. En fait, elle est rassurée par rapport au match aller. Vraiment, il y avait évidemment cette crainte du PSG qui faisait peur avec Mbappé, mais voilà, ils ont quand même ils ont vu la performance notamment du milieu de terrain avec Gundogan, avec De Jong, avec Pedri, qui n'était pas titulaire, mais quand il est marqué son premier ballon, il a fait une passe décisive splendide. Il devrait être titulaire ce soir. Enfin voilà, ils ont vu qu'il y avait assez de talent, en tout cas pour s'imposer au Parc des Princes. Évidemment. voilà, c'est pas complètement fait, mais il y a quand même, voilà, là aussi une forme de, on va dire de sérénité par rapport à ce qui s'est passé au match aller. Après, ils pestent beaucoup les Barcelonais que j'ai rencontrés sur la nouvelle règle là du c'est fini pour le but à l'extérieur qui compte double. Ça, ils disent ah quand même là ça pourrait
aller
plus loin parce que si jamais Paris s'impose, voilà ça pourrait aller en prolongation. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose qui les tracasse avec un réveil possible de Kylian Mbappé sur le terrain. Ouais.
C'est la deuxième saison hein, quand même que les buts ne comptent plus avec ça. Oui. Nabil, résumons, avantage Barça.
Bah, comme on est pas loin d'une séquence d'élections, le Barça en ballotage favorable, tout simplement. Voilà, on était. Pour moi, c'était du 50-50. Pour moi, c'est du 50-50.
Élections à un tour. Alors, il n'y aura pas de ballotage, mais les élections européennes, mais c'est pas grave.
Pour moi, c'était du 50-50. Après le match aller, on est passé à 66-33. Parce que je rappelle qu'un match nul suffit ce soir au FC Barcelone. Factuellement, ils peuvent gagner et même match nul suffit à se qualifier.
0-0.
Ah oui, 0-0, d'accord.
C'est vrai.
Ah oui,
aussi.
J'allais dire, j'étais sûr. Oui, là, c'est vrai.
Oh, il y aura des buts quand même ce soir.
J'espère.
Eric.
J'espère. Après, j'espère que ce sera du bon côté. Mais en tout cas, non, mais après, voilà, je pense que j'ai envie de voir un PSG à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. C'est ça, surtout. Parce qu'en fait, la frustration, elle est là sur le match aller.
Si
même si tu perds contre le Barça, mais tu joues le match à fond et
voilà,
tu dis, voilà.
Perdre bien.
Mais là, perdre comme ça, en jouant seulement 20 minutes, c'est pas possible. Quoi.
Un de nos auditeurs ce matin sur l'antenne disait 2-2. Hein, lui il prévoyait un 2-2 dans l'appel sur l'actualité. On verra en tout cas. Cédric, rendez-vous avec vous tout à l'heure, juste avant le coup d'envoi qui aura lieu à 21h et 19h en temps universel
avec Baba Cardira et
exactement
Matra,
en studio
exactement.
Qui attendent déjà vos messages d'ailleurs si vous avez des messages pour eux et nous bien, on sera là 21h10 en temps universel pour la deuxième édition et d'ailleurs on sera là ce soir, demain et jeudi après la qualification de l'OM.
Ça fait pas sourire.
Ça fait pas sourire.
Je suis beaucoup moins inquiet pour l'OM que pour le PSG.
Ah ouais.
On verra ça.
On m'appelle l'oracle.
Merci. Okay. Merci beaucoup, Cédric. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Yeah, it's definitely one of the best places in the world of football, and we want to pay back with a good performance.
Ils sont garantis,
beau,
hein,
ouais,
comme dans
beau.
Certains stades. Alors là,
beau,
on n'est pas à Liverpool, parce que ce n'est pas les seuls qui ont le monopole du You'll Never Walk Alone. Il y a aussi le Celtic à Glasgow. Et puis, il y a donc Dortmund avec ce mur jaune. C'est,
ils n'ont jamais pensé à faire un tournoi du You'll Never Walk Alone. Non, mais c'est vrai.
Tu c'est amusant. En tout cas, on n'a pas trouvé de version allemande. Ils la chantent en anglais.
Oui.
Et évidemment,
et
pour eux, pour Dortmund, c'est aussi mission possible. Lors du match aller au Metropolitano, le Borussia a été battu par l'Atlético, mais sur le score de 2-1, un but en fin de partie de Sébastien Haller. Alors, il ne jouera pas ce soir parce que le pauvre s'est re-blessé. En tout cas, il a redonné de l'espoir et une chance au club allemand de se qualifier. La force descendra-t-elle du mur? Écoutons Julian Brandt qui attend le soutien de son stade.
L'atmosphère ici à Dortmund est absolument unique. Nous n'avons pas à nous soucier du soutien des supporters. Ils sont toujours avec nous, nous ne sommes jamais déçus et c'est un aspect primordial. J'ai un souvenir qui me revient à l'esprit. Il y a 3 ou 4 ans, alors que nous affrontions l'Inter Milan en phase de groupe, nous étions menés 2-0 ici. Nous jouions contre une équipe très forte lors d'un match crucial. Et le stade s'est enflammé, nous a poussés et nous a communiqué une telle énergie que nous nous sommes mis à très bien jouer et nous avons renverser le match, je ne l'oublierai jamais.
Une ambiance comme ça, quand même, ça,
Ça galvanise, hein.
Non, ouais. Mais c'est magique, franchement. Ouais, on joue au football, pour vivre des moments comme ça. Donc là, ça va être fantastique. Et Dortmund a quand même une chance de...
On se souvient d'un PSG Dortmund. Hein, ouais. Le PSG était allé jouer là-bas et ça avait été aussi très impactant.
Très chaud. Ils sont allés plusieurs fois, mais c'est vrai, déjà franchement, l'ambiance est incroyable.
En tout cas, les Colchoneros sont prévenus. Les autres, évidemment, aimeraient bien continuer l'aventure. Et ça fait longtemps, pour toutes ces équipes pratiquement d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus en demi-finale. Que ce soit le PSG, que ce soit le Barça, l'Atlético ou même Dortmund.
C'est vrai,
ça fait très longtemps. Et les Colchoneros donc sont prévenus. Écoutons leur entraîneur, Diego Simeone, qui n'ose pas quand même s'avouer préoccupé.
Bueno, vamos a enfrentar un equipo que muy fuerte en su casa, que seguramente empezará con un ritmo alto.
On affronte une équipe très forte chez elle. Dortmund va débuter sur un rythme très soutenu. Il faut rester sur le niveau qu'on affiche depuis quelques matchs. L'équipe répond bien, elle est en confiance. On a bien progressé cette saison avec de bons résultats en Liga. Ça nous a fait grandir dans le monde du football. 7 ans après, nous pouvons retrouver une demi-finale. Je sens bien mes joueurs, ils vont faire un bon match. Je m'attends à une belle soirée de Ligue des Champions.
No va pensar tanto. Lo siento bien a los futbolistas. Van a ser un buen partido. Y bueno, mañana será una noche de Champions de la buena, ¿no?
Alors, de la buena, bien sûr, les ressources du BVB, c'est sa jeunesse, son atout aussi retrouvé, hein, Jadon Sancho, qui
l'anglais.
S'était un peu perdu, ouais, l'anglais, ouais, du côté de Manchester. Bon, et puis l'Atlético peut compter sur le Principito, sur Grisou, n'est-ce pas,
bien sûr.
Nabil.
Bah, effectivement, c'est une affiche qui est quand même excitante. C'est pas celle qu'on coche en premier.
En certaines.
Sur le papier. L'Atlético qui a quand même le tour précédent sorti probablement une des trois meilleures de la compétition, l'Inter.
Je pensais pas. Hein,
sur une double confrontation, franchement, qui a tenu en haleine tout le monde. Probablement le match des huitièmes de finale pour moi. Et puis, ce match aller intense, 60 minutes où l'Atlético marche clairement sur Dortmund. Mais l'expérience, la jeunesse, la verticalité, le talent et aussi le métier de Haller permet qu'on ait un match retour encore plus excitant finalement que le match aller. Et Dortmund, on l'oublie peut-être un peu. Évidemment, ce n'est pas le Bayern, mais c'est une équipe qui a déjà à son palmarès une Ligue des Champions, qui connaît le chemin de la victoire, qui a une histoire, qui a cette saison probablement des défauts, qui a probablement...
Oui, un peu quelques difficultés en championnat.
Des difficultés défensives. On a vu Hummels parfois en difficulté, qui a un bon gardien qui s'appelle Kobel, mais vous avez aussi raison sur le retour vainqueur de Sancho à l'intersaison, qui revient de Manchester United avec un prêt sans option d'achat. Honnêtement, c'est ouvert. Et si je suis Atlético Madrid, j'y vais pas pour mettre la Brinks. Je m'explique, j'y vais pas pour jouer avec un fourgon blindé parce que ça tiendra pas sur 90 minutes.
Ouais, c'est dur. Ouais, après c'est dur de battre cette équipe de l'Atlético, on le sait. Alors, ouais. Dortmund, je trouve qu'elle est moyen parce qu'elle va avoir l'insouciance aussi. On l'attendait pas forcément au rendez-vous jusqu'ici. Et puis ils sont là et ce but est très important, je pense, de l'avoir mis là-bas.
Ah bah
parce que là,
match, hein.
Ça te relance vraiment.
Même si compte pas double.
À 2-0, c'est pas pareil, surtout contre une équipe
Exactement.
Comme ça. Et là, à 2-1, vraiment, tu sais que ça peut, peux raccrocher très très vite sur un but rapide dans un match.
Ils peuvent se fragiliser en voulant aller trop loin.
Mais il y a Grisou en face et que lui est un vrai opportuniste et qu'il est capable de la moindre erreur.
De tout surtout.
Il y a des absents quand même. Qui est important.
Il y a beaucoup d'absence, c'est Depay.
L'Atlético, il y a Depay, il y a Lino qui fait une belle saison, l'ailier, donc c'est quand même des éléments qui sont importants. Curieux de voir si Royce va jouer ce soir ou pas, parce que pour moi, Royce, c'est un joueur extraordinaire, donc il ne fait pas la carte qu'il doit faire pour des raisons de blessure, mais celui qu'on a entendu, Brandt, par exemple, c'est un joueur très sous-coté en Europe, mais qui est un excellent joueur, l'international allemand.
On se souvient de lui, notamment à la Coupe des Confédérations, je me souviens, où il avait énormément brillé à l'époque
d'Allemagne. Donc, ils ont des éléments pour déséquilibrer et mettre en difficulté cette équipe de l'Atlético. Mais bon, l'Atlético, on parlait tout à l'heure de Donnarumma, qui n'est pas toujours au rendez-vous. Eux, l'Atlético, ils ont un gardien qui a toujours été au rendez-vous jusqu'à présent, Oblak.
Quel gardien.
Oui, exactement. Eh bien, c'est à voir et ça sera à écouter aussi sur l'antenne de RFI et on se retrouvera dans la deuxième édition. Je vous propose maintenant un petit voyage.
Et à présent, que la plus belle fête du monde commence, celle des Jeux Olympiques. queriez ce qui kiri, d'aller mesto parisi. Rendez-vous le 26 juillet à Paris 2024. Merci.
Un peu de bouzouki, le compte à rebours est lancé très concrètement grâce à cette déesse grecque notamment, depuis en tout cas que la flamme symbolisant les Jeux Olympiques a quitté ce matin le site d'Olympie, la ville qui dans l'Antiquité aurait abrité, a abrité les premiers Jeux Olympiques de l'histoire, c'est dans le Péloponnèse en Grèce. Alors la flamme n'arrivera que dans 11 jours en France, hein, elle va prendre son temps, mais elle est relayée, les gens courent. Hein, donc, oui. Non, elle ne s'éteindra pas apparemment, il y a une sécurité. Elle arrivera à Marseille et elle sera utilisée donc le 26 juillet pour allumer la vasque qui s'enflamme durant une Olympiade et sera donc évidemment à Paris. C'est à l'abri de ce symbole que seront donc lancés les Jeux de la 33e Olympiade, 32 disciplines, dont les matchs de football. Alors là, on va s'amuser, hein, on a un peu de temps, on va s'amuser, je vais vous poser des questions. On dit toujours, que fait le football aux Jeux Olympiques, hein, c'est souvent ce qu'on entend. Est-ce que d'après vous, ça fait longtemps que l'on joue au football aux Jeux Olympiques?
Je
dirais 80, moi.
70.
Alors je vais vous donner des options. En quelle année a eu lieu le premier tournoi de football masculin?
30.
J'ai trois dates, ou 1908, ou 1948, ou 1988.
Ça ne peut pas être 88 parce que la France a gagné le tournoi en 84.
Oui.
Donc celui-là, on est à 1000.
Est-ce que vous pouvez nous dire
les deux autres?
1948 ou 1908.
1908.
Et ben alors, Nabil, vous avez raison. Et dans un sens, c'est-à-dire que c'était la première fois qu'il y avait un tournoi olympique, mais il y en a eu. Ça a commencé en 1900, au JO en fait de Paris, c'est-à-dire la deuxième Olympiade, puisque la première est en 1896 à Athènes, en Grèce. Mais à l'époque, il y avait un peu n'importe quelle équipe. Pierre Guérin. Non, à chercher, mais. S'il y avait un club anglais, c'est celui qui avait gagné d'ailleurs, Upton Park Football Club. Ensuite, on avait un club français qui n'est même pas dénominé d'ailleurs. Et on avait la Fédération Athlétique Universitaire Belge. Donc, une congrégation un peu de bons joueurs. Et puis, peu à peu, ça a commencé.
Ça s'est professionnalisé, on va dire.
Ça s'est professionnalisé. Et en 1908, les premiers à gagner, logiquement, c'est...
Les Grecs.
Ben non.
Attendez, 1908.
Les Anglais, bien sûr. Les gardiens du temple. Et puis ensuite, on a noté des choses intéressantes. 1936, les Jeux de Berlin. C'est l'Italie qui gagne. Mais si je me souviens bien de mes lectures, ils gagnent contre l'Autriche et c'est un match un peu pipé parce que Hitler voulait, je crois, faire plaisir à Mussolini vu que les Allemands n'avaient pas joué. Il y a une histoire comme ça. En 1984, effectivement, la France gagne. Quelles sont les premières équipes africaines?
Le Nigeria et le Cameroun.
Nigeria, ouais.
Nigeria. Quelle année?
Alors, 2000 et 2004 96
Non, avant le Nigeria.
À Barcelone, il gagne. Le Cameroun, il gagne en 96.
Avant, non?
Mm-hmm. 96, le Cameroun.
Avant, je me rappelle, c'est Patrick Mboma, je me rappelle.
Bon, je sais que le Cameroun, ils battent. Je sais que l'Espagne, ils se font battre par le Cameroun en finale, j'en suis sûr.
Et le Nigeria bat le Brésil, non?
Et le Nigeria bat l'Espagne aussi.
L'Argentine, la famille suprême. Alors, le Nigeria, vous avez raison, mais c'est 96, les Jeux d'Atlanta.
Ouais.
Et l'an 2000, pour ce qui est du Cameroun, qui bat donc l'Espagne.
De Raoul, je crois qu'il y avait Raoul.
D'accord. Et l'Argentine va gagner en 2004 avec un certain.
Lionel Messi.
Voilà, dans ses rangs.
Et c'était aussi la première participation de Cristiano Ronaldo. Avec le Portugal en 2004, ils avaient battu l'Irak. Je me souviens, j'ai regardé le match.
Et qui est détenteur du titre?
Heureusement.
Là
ouais.
On est en quelle année, là? On est en
2024.
Oui, au Japon, c'est qui qui gagne. De toute façon, nous, ça avait été un fiasco, la France.
Mm-hmm. Avec on n'avait pas surtout Tova. Envoyé beaucoup de joueurs.
Ouais. Mm. Oh, je ne suis incapable de dire.
En fait, c'est les Brésiliens qui sont double détenteurs du titre. Ils gagnent en 2016 chez eux et ensuite en 2020. Quel est le pourcentage de succès des pays hôtes dans le tournoi olympique? Je vous donne trois pourcentages. 15, 55 ou 70%?
15. 15.
Je ne vais pas dire la même chose que lui, je vais dire 55, mais bon, je pense que c'est
non,
beaucoup.
Non, mais Nabil, il est vachement
beaucoup,
bon. Hein.
C'est beaucoup 55.
C'est 15%.
Je me sacrifie, mais c'est beaucoup 55.
C'est 15%.
Je ne suis pas plus bon que ça, je fais juste par...
Quelle est la nation qui n'a jamais inscrit son nom au palmarès des JO? Vous savez que c'est important, c'est parfois pour certaines équipes.
C'est-à-dire qui n'a jamais inscrit...
Qui n'a jamais remporté la médaille d'or.
L'Allemagne, non?
Non, mais il y en a plein qui ne l'ont jamais remporté.
Grande nation.
Ah, grande nation. L'Espagne?
Pas loin.
Le Portugal? L'Italie.
Voilà. Ouais. Mmh. Bon, on pense à Matteo, hein, bien sûr.
Après,
on
c'était...
Ouais, de toute façon, c'était dans la région.
Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, on se demande un peu pourquoi, la grande différence de niveau, ce qui est de l'organisation. Les garçons, cette année, c'est 16 équipes. Mais alors, on a les moins de 23 ans.
En fait, et les filles, depuis quand elles
avec
sont...
Avec 3 équipes, 96 Atlanta.
D'accord.
Mmh. Et les filles, 12 équipes. Mais alors là, on a les meilleures. On a le gratin. On a les meilleures joueuses. Bon, ça, c'est un des mystères. En tout cas, parmi les trois qui ont plus de 23 ans, quelles stars seront choisies dans l'équipe de Thierry Henry ? Eh bien, vous allez l'entendre, le président Macron réclame clairement la participation de Kylian Mbappé.
Bizarre.
On va tout faire pour. Moi, j'ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire. Vous savez ce que je veux dire ? On a l'euro, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut que les clubs jouent le jeu pour qu'on ait un grand spectacle. C'est une de mes craintes. Je suis d'accord avec vous.
Le Real Madrid aussi ?
Exactement, quand je parlais des clubs européens, c'était ça. Non, après, il faut que les joueurs se le mettent bien dans leur plan de charge et d'entraînement aussi. Parce qu'on a l'euro, j'espère qu'on va jouer jusqu'au 14 juillet. Et je le pense, je le veux. Et après, on a le... ils ont des reprises précoces pour beaucoup, donc il faut qu'on
libère un peu. Vous en avez parlé avec Lionel Mbappé ?
J'en ai pas parlé encore avec lui, mais j'espère que son club surtout lui laissera.
Est-ce que selon vous,
il reste évasif sur
j'espère
le club.
Qu'il va faire
sur
beau
le club, il reste évasif.
Hein, comme ça, il nous dit, en passant.
Il a dit français, européen. Je ne sais pas. En passant,
il nous dit que c'est le Real Madrid qui sera Kylian, puisqu'il demande au Real de les libérer. Kylian,
extraordinaire. Vous, vous avez raison.
Oui, c'est vrai.
Non, mais ça a l'air de rien. Comme ça, c'est tellement évident que même lui le valide, quoi.
Il est dans les secrets, les grands aussi.
Papiers.
En tout cas, il réclame sa participation. Il doit être dans les secrets des dieux de l'Olympe. Vous le voyez encore possible ?
Non.
Eric. Ça me paraît beaucoup quand même en termes de compétition. Déjà là, on est en quart de finale de Ligue des Champions. Après, tu enchaînes l'Euro. Après, tu dois enchaîner les JO. Ça me paraît beaucoup, vraiment. Alors, ça serait mieux hein, pour la France, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible.
Moi, j'y crois pas parce que, en fait, c'est pour des raisons économiques, tout simplement. Et Emmanuel Macron, on le sait aussi bien que nous, lui qui a travaillé très longtemps dans la finance. Pour le Real Madrid, c'est un investissement. Et ils ont, à ce moment-là, une tournée en Asie. Et c'est là aussi où ils capitalisent, ou aux Amériques. C'est là aussi où ils capitalisent sur leur nouvelle star. Et ils vont chercher des sous. Donc le Real, si vous voulez dédommager économiquement...
Si on dit qu'il y a Mbappé dans les rangs, mais qu'il arrivera après...
Non, ça ne marchera pas, ça. Si on les dédommage, par exemple, si on leur fait un chèque de 10 millions, on leur dit « Bon, bah, vous nous laissez, vous le mettez à disposition, on vous compense économiquement le manque à gagner à venir sur votre tournée,
qui
peut-être qu'il le fera. »
C'est Mbappé fera le chèque, alors.
Bah, Monsieur Macron, peut-être qu'il... non, je ne sais pas.
Je crois qu'il y a un déficit.
Je plaisante, mais quand il dit « j'espère », c'est comme moi, j'espère qu'il fera beau demain, quoi, en fait. Non, mais c'est ça, en fait, il n'a pas de,
non,
de
mais
levier.
Façon, de toute façon, dans le discours, là, on entend dans sa façon de répondre à la question, il part sûr de lui, après il fait bon, ah oui, alors il y a ça, et puis bon, en fait, bon, bah, je sais
en
pas.
Fait,
en fait,
si je réfléchis.
En fait,
bien.
Il sait pas, en fait.
Non, mais il est dans son rôle, et puis il dit aux Français que. Il dit
je vais faire quelque chose, mais en fait, il sait pas, en fait.
Il veut créer un certain.
Je pense qu'il a d'autres choses à gérer entre nous, mais enfin bon.
Bon, les amis, je dois faire une correction et c'est grâce à Mathieu De Gueldre d'ailleurs. En fait, je vous ai dit que l'Italie l'avait jamais gagné, mais en fait, l'Italie l'a gagné une fois et on l'avait même dit, c'était en 36 à Berlin.
Contre, bien sûr.
L'Allemagne ne l'a jamais gagné.
Voilà.
L'Allemagne de l'Est l'a gagné bien précisément et c'était en 76 à Montréal. Par contre, l'Allemagne récente était deuxième et c'était à Rio contre l'équipe emmenée par Neymar. Mais si donc on croit par contre les pourcentages qui nous ont été donnés, la France a 15% de chance de remporter cette médaille olympique.
On peut le faire.
C'est pas mal, 15%.
Hein, franchement, on peut le faire.
Hein, oui.
Moi, je suis pas si
sûr.
Ah oui, je suis sûr. Ouais.
Et ben alors, c'est intéressant.
Ouais.
Et du coup, on aura l'occasion d'en parler au cours de l'été.
Zahir Emery va jouer avec
les JO aussi. Il n'y a pas qu'Mbappé, on a plein d'autres joueurs.
Oui, bien sûr, mais même il y en a d'autres qui sont candidats. Et,
même Benzema est candidat.
Non, enfin, on lui a suggéré d'être candidat. Par contre, Griezmann,
par exemple,
a les faveurs.
Si vous avez Griezmann, Giroud, Ousmane Dembélé, c'est l'attaque
des... Il fait l'Euro et autre chose après. Bon, on en reparlera dans Radio Foot International. On se retrouve tout à l'heure à 21h10, en temps universel. Merci à tous et bon match.